Déjà, le fait de les avoir identifiés, c'est super pour ne pas aggraver, pour ne pas aller les reprendre. C'est quelque chose qu'on fait rarement sur les autres patients. Ma question, c'était de savoir quelles étaient les grosses différences par rapport à la problématique qui se pose sur le patient, celle de Normandie actuellement. Comment est-ce qu'il travaille par rapport à quelles sont les grosses différences entre votre stratégie?
Oui, effectivement, enfin, on n'a pas tout à fait les mêmes approches. On est en lien avec notamment le PTB 7 Grand Lac qui a une action importante sur ce volet zone d'extension de crue. Et effectivement, visiblement, ils ont une approche sur les effets cumulatifs, sur de la micro-ZEC, entre guillemets, et notamment en tête de bassin, en amont bassin, sur les affluents de la Seine. Bah, ils n'ont pas effectivement la même approche. Après, sur les financements, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est une impression personnelle, que l'approche de l'agent de l'eau Seine-Normandie est un peu plus favorable à l'aspect hydraulique. On s'aperçoit que l'agent de l'eau Loire-Bretagne est plutôt sur l'aspect zone humide, une solution fondée sur la nature. Et peut-être enfin, en termes de financement, ce qui est un peu le nerf de la guerre, et un peu moins sur un regard de solution hydraulique. Mais
On remercie l'établissement public pour nous, on a été concernés par une des études ZEC qui se concerne ces dernières années. Ça nous a permis de mettre la lumière sur des problématiques, sur la protection également, c'était abordé de ces zones qui passent beaucoup inaperçues sur le territoire, qui font l'objet de remblais. Donc on est sur des actions passives et de pédagogie, on va s'appuyer beaucoup là-dessus. Après, en tant que syndicat de rivière, on est convaincu qu'effectivement, sur le territoire de plaine qui draine énormément de débits, de volume. Voilà, on était bien conscient que, mis à part des casiers gigantesques qui tiennent à des petits, il n'y a pas vraiment de solution, avec des faibles vitesses d'écoulement en plus, par ailleurs, mais que les solutions, véritablement, elles se déroulent sur le territoire très agricole, quand même, sur une grande partie de Loire-Bretagne, à l'échelle des têtes de bassin, liées aux restructurations de cours d'eau et tout point lié à la rugosité et les solutions là clairement fondées sur la nature qui sont transversales à la demande. C'est l'un des points, à mon avis, sur lesquels il faut continuer, j'ai des choses en cours, mais continuer à avancer et favorablement aux innovations.
Alors après, si je reprends la comparaison sur d'autres bassins et je reviens sur la Seine, on est dans des choses qui ne sont pas du tout comparables. Il y a le projet actuellement de la Bassée, là, qui est gigantesque, qui est justement sur la création de casiers hydrauliques, pas du tout à la même échelle. Et c'est effectivement des travaux astronomiques. Pour l'instant, à ma connaissance, sur le bassin de la Loire, cet affluent, il n'y a pas ce genre de réflexion. Et voilà, c'est pas une idée de plus. En tout cas, nous, dans le cadre de nos études, on n'est pas allé dans cette réflexion.
Et juste savoir sur, enfin, vis-à-vis du travail que vous avez déjà réalisé, justement, la possibilité de la mettre à disposition. Alors, je me présente Antoine Morel du syndicat de la Saule. La mise à disposition, justement, de ce travail-là, justement, pour servir un peu de préambule à toutes les démarches champs d'expansion de crue qui pourraient être menées dans le cadre enfin, du futur PEP. Est-ce que, justement, c'est prévu la mise à disposition et puis un accompagnement pour une appropriation des données qui ont pu déjà être produites et qui puis il y a une orientation sur comment on pourrait les valoriser au mieux pour, justement, outre identifier des champs d'expansion de crue optimisés, sensibiliser aussi justement pour leur préservation auprès notamment des EPCI.
Oui, tout est mis à disposition, hein. Toutes les données sont mises à disposition du recensement là, que j'ai évoqué tout à l'heure. On est aussi à votre disposition pour venir éventuellement présenter tel ou tel zoom, telle ou telle analyse, rentrer dans le détail. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail des données, mais il n'y a aucun souci. Après, bah, bien entendu, la mobilisation de ces données, de ces informations, de cette réflexion dans le cadre des PEP. Ou des papilles, elle se fait quand ben, c'est l'établissement, par exemple, l'établissement public qui est directement concerné ou impliqué, mais après, l'information peut se faire aussi d'une autre manière, il n'y a aucun qui ont une difficulté.
Juste une remarque, d'élu. Hein. Dans les zones d'expansion crue ou d'expansion de la rivière, on ne peut rien faire en urbanisme. C'est dommage. C'est dommage parce que je ne pense pas à la construire une maison, mais faire un aménagement paysager, faire un point sportif, faire un point culturel, une action comme ça. On peut toujours, mais quelles sont les contraintes à respecter, surtout pour un élu, où est le financement possible? Parce que moi, bon, je connais bien ma commune, petite commune, hein, qui est juste au sortir du bassin Maubuissonnais et qui est bien sûr impactée par ce genre de problématique. À part les gens du voyage, je ne vois personne s'installer de Rochette, mais bon, ce n'est pas pour autant qu'ils s'en vont, hein, parce que c'est le temps qu'ils ne craignent rien où ils sont. Mais il y a quand même des projets qu'on voudrait voir venir enrichir ce territoire plutôt que de le laisser pas à l'abandon, parce qu'on fait un peu de culture, on fait un peu d'élevage, mais c'est quand même compliqué. Juste à la sortie d'un tissu urbanique dense, on pourrait faire des choses quand même, parce qu'on peut avoir des aides particulières, des pistes. C'est peut-être pas le sujet de cette réunion,
mais non, mais c'est effectivement ça.
C'est inquiétant pour un élu qui veut gérer son territoire.
C'est un sujet en fait, qui a été traité aussi sur lequel l'établissement a travaillé, qui a fait l'objet d'un guide sur la constructibilité en zone urbaine. Et je ne sais pas, peut-être Mathieu, vous avez un peu une expérience sur la municipalité. Sur ces sujets-là, je pense que ça peut être intéressant aussi. Vous avez déjà partagé
Oui, bah, c'est un sujet sur lequel on a travaillé, parce que comme beaucoup de territoires, même si aujourd'hui il y a un certain nombre d'un encadrement relativement strict de la construction en zone inondable, par le passé, tout n'a pas été fait comme on pourrait l'aborder aujourd'hui. Donc on a effectivement énormément de bâtiments qui existent déjà et qui sont déjà construits. Donc nous, on fait le travail qu'on essaye de faire, c'est sur la base d'un diagnostic de la vulnérabilité du territoire, d'être toujours en fait en amélioration. C'est-à-dire qu'on, dans un certain nombre de conditions, on réalise des projets en zone inondable, dans les zones d'agglomération les plus modérées, mais la contrepartie, c'est qu'on fait de l'acquisition foncière, de l'expropriation et de la réduction de vulnérabilité dans les zones d'agglomération les plus fortes. Et évidemment qu'on va privilégier dans la balance, on démolit des habitations et c'est plutôt de l'équipement public, peu sensible, géré, structuré, qu'on va réaliser dans les secteurs qui sont inondables. Et on choisit de le faire parce que ces secteurs qui sont, et ces équipements qui sont présents, bah, ils sont déjà présents, et les transférer ailleurs, ça poserait énormément d'autres problèmes de disponibilité foncière, d'impact environnemental, de transport au quotidien, etc. On est dans ce schéma-là et c'est seulement dans ces conditions qu'effectivement on déploie des équipements ou qu'on les réaménage ou qu'on les rénove en zone inondable.
Dur compensatoire.
C'est un peu ce principe-là en fait, hein, qu'on essaye d'appliquer. C'est la séquence éviter, réduire, compenser. On a pris un peu comme leitmotiv à notre stratégie locale. Donc on évite de construire en zone inondable, mais quand on doit le faire, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions, on le fait sous condition de réduire l'impact ou de le compenser. Ça répond à votre question. En termes de financement, ce qui est aussi toujours une préoccupation sur tous les territoires, pour le moment, on le fait hors cadre PAPI jusqu'à présent. Mais appellement accompagné, notamment sur la question de l'expropriation, de l'acquisition foncière, on le fait
sur le budget général. Peut-être que le contrat de territoire.
Sur le contrat de sur les contrats territoriaux, évidemment, mais
pistes
d'action accompagnées. Toutes les études qui ont permis l'élaboration de la stratégie locale, toute la définition de la stratégie a évidemment été accompagnée par les dispositifs qui existent sur le sujet, PDF et Barbie.
Merci. Après, je mettrai le lien aussi, enfin, voilà, parce que donc, Vichy avait, dans le cadre de ce retour d'expérience à l'échelle du bassin, il y avait quatre sites, enfin, qui avaient été, parce qu'il y a Nantes aussi, qui travaillait aussi sur le sujet, Angers, et puis Romorantin aussi, qui a aussi travaillé beaucoup sur la constructibilité en zone inondable. Donc là, voilà, il y a ce retour d'expérience. Je mettrai aussi le lien dans la restitution de ces échanges.